comment traiter ses émotions. Donc à partir de l'exposé d'hier soir, je vais continuer, comme certains ont dit, deuxième chapitre du traitement des émotions, quelle place elles ont et surtout dans le processus de la méditation, comment est-ce qu'on va les rencontrer pour être libre en leur présence, ou en tout cas un petit peu plus libre, moins sous leur emprise, car voilà la tentative. Donc comme vous le savez certainement, les enseignements du Bouddha ont un seul but, si on veut, c'est se libérer de la souffrance conditionnée. Et je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a une souffrance conditionnée et que ce cheminement va nous amener à pouvoir découvrir comment aller à la liberté. Dans une retraite un peu plus longue, comme celle-ci, même sur une semaine, la pratique nous donne l'opportunité de dévoiler les parties de nous-mêmes que nous avons tendance soit à cacher, à nous cacher à nous-mêmes, surtout, peut-être à cacher aux autres, mais surtout à nous-mêmes, et que nous trouvons menaçantes, ou aussi les parties qui ont tendance à être reniées et donc que nous ignorons tout simplement. Mais si vraiment on veut découvrir une liberté profonde et sans condition, car il s'agit de ceci, eh bien on ne peut pas faire l'économie de certains aspects qui naturellement sont plus douloureux et difficiles. Donc comme l'a dit Charles hier, il y a une tendance. C'est quand on vit au contact des concepts, on vit à la surface des choses. On est vraiment très clairement en train d'effleurer notre vie. Et la tentative ici, c'est d'être un petit peu plus en contact avec cette réalité. Donc, naturellement, si on s'adonne à cette intimité et qu'on est un tout petit peu plus, voire beaucoup plus en présence, il va révéler des parties qui nous constituent et qui ne sont pas forcément plaisantes à rencontrer. Les émotions douloureuses font partie de ce registre. Maintenant, il est tellement évident qu'il y a plusieurs façons de se mettre en condition pour les accueillir, les expérimenter. Plutôt que des problèmes à résoudre, et je crois que ça c'est extrêmement riche de se rendre compte déjà de quelle est notre attitude par rapport à cet aspect de nous-mêmes. Et très souvent, on a envie justement de s'en débarrasser et puis voilà, sans vraiment les rencontrer. Et ça, généralement, tous, nous sommes vraiment profondément heureux quand on n'a pas à traiter les difficultés, qu'elles soient d'ordre de douleur physique, mais ici je parle des émotions, plutôt que de les expérimenter comme étant des parties, on peut dire, intéressantes, moi je dirais même riches de notre existence. Si riches. Donc, rien à éviter et à rejeter, mais en même temps, il s'agit vraiment d'un délicat processus qui demande toute notre attention bienveillante, on peut dire réceptivité, patience, endurance, persévérance. Il y a vraiment toutes ces qualités-là qui sont requises quand on est en présence de ce type d'expérience. Donc, première chose, je dirais, c'est notre mise à disposition. Est-ce que j'ai vraiment l'envie de me rencontrer? Et est-ce qu'il y a vraiment cette dimension de mise en situation pour aller à l'évidence rencontrer les parts qui sont un petit peu plus douloureuses? Et ça, c'est un aspect quand même très riche. Peut-être pas. Peut-être pas. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons pouvoir vraiment respecter et prendre la responsabilité du fait que on choisit de penser, on choisit d'être à distance, on choisit de réfléchir à la situation plutôt qu'à cette qualité d'intimité. Et c'est tout à fait louable. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de difficulté à honorablement dire, eh bien, voici mon contact, il est jusqu'à ce point. Et puis, peut-être qu'à un autre moment, dans une autre situation, dans un autre temps, ce sera possible peut-être qu'à ce moment-là de laisser émerger. Il n'y a aucun problème dans ce type d'attitude. Si vraiment on se positionne de façon à respecter ce qui est juste pour nous présentement. Alors, ça implique naturellement que si on se dit, oui, il y a peut-être quelque chose à découvrir, à révéler, à ce moment-là, progressivement, il y a une tentative et une qualité d'exploration de richesse qui, à ce moment-là, va dans le sens de révéler ce qui est là et de se permettre d'être un tout petit peu plus intimement en rapport avec l'existence qui présente différents types de manifestations, d'expressions. Il y a aussi beaucoup de moments où on peut prendre en compte la joie, le contentement, la satisfaction, la gratitude. Donc, je crois que ça va de pair. Si on a envie de vivre plus pleinement, qu'on puisse aussi goûter à la dimension heureuse de l'existence, c'est-à-dire toutes les émotions qui sont positives et qu'on a l'envie de goûter, qu'elle en a envie de goûter. Mais on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, très souvent, à la recherche de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qui se présente. Donc, en tout cas pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été vraiment en mesure de pouvoir découvrir un tout petit peu plus ces émotions dites douloureuses, ou effectivement, quand même un petit peu, on les dénomme les perturbations, à la mesure de ce que j'ai pu aussi goûter aux émotions positives. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que il y a à ce moment-là un équilibre qui me permet d'être un tout petit peu plus, voire même beaucoup plus en harmonie, car la possibilité de goûter par exemple à la bienveillance, de la déployer, d'avoir un paysage absolument merveilleux puis de s'en réjouir, me met en vie, de la même manière qu'une émotion douloureuse peut également me mettre en vie. Donc, je crois vraiment qu'il y a cette juxtaposition et qu'à ce moment-là, il y a une richesse de différentes expériences qui naturellement nous enrichissent. Donc, comme l'a dit Charles, il a parlé de la vitrine qui est simple vitrine et que la voiture, c'est comme si j'étais un peu cachée là derrière, hein, écoutez. Et que rien colle à cette vitrine, eh bien, dans la même mesure, c'est exactement ça. Les émotions n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune emprise. Elles ne peuvent pas altérer la nature de la conscience. De la même manière que les Tibétains ont une très belle image, c'est l'image de la nature du ciel elle-même. Il peut y avoir beaucoup de nuages qui passent et autres, mais quelque part, on sait que la nature du ciel. Donc, il y a dans cette dimension de la conscience rien qui s'y colle, on peut dire. Rien n'y adhère réellement. Et il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de types de manifestations, d'expressions, qui l'a appelé conscience secondaire. Donc, les facteurs mentaux. Donc, dans le processus de la méditation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous le savez bien sûr, on va reconnaître l'émotion et déjà d'être en présence, de savoir, tiens, il y a une émotion présente, c'est immense comme processus, parce que il y a déjà là une qualité, même si c'est le concept, mais on reconnaît l'expérience pour ce qu'elle est. Ensuite, une attitude respectueuse. De plus en plus, j'emploie ce terme de respect parce que il manque quelque part. Donc, une attitude respectueuse, eh bien, ça implique que quelque part, on prend vraiment le temps de la rencontre. On prend le temps de dévoiler et d'aller au contact. Et ceci, bien sûr, est très progressif. Et je vais prendre un exemple tout à fait anodin. J'étais aux États-Unis l'année dernière et comme cette année ici, il y avait canicule quand on a enseigné là-bas dans l'est des États-Unis, près de Boston, il faisait vraiment très chaud. Et puis, une collègue enseignante et moi-même, juste après le repas de midi, il y avait une heure où on pouvait avoir du temps pour nous, comme ici. Et puis, il y a un petit lac tout près du centre de méditation. Et donc, comme il faisait très chaud, eh bien, il se trouvait que ce lac nous paraissait vraiment très froid. Et donc, elle et moi, on était là, c'était tentant bien sûr, mais vraiment il y avait une différence de température assez incroyable. Et puis, j'ai eu l'idée de me dire, l'eau est beaucoup trop froide pour se baigner. Elle, avec beaucoup plus d'habitude de cette région, a dit, mais essaye! Et puis, un orteil, deux orteils, trois orteils, un pied, puis voilà, progressivement. C'est une évidence qu'au bout de 5 minutes, c'était un vrai régal. Je ne dis pas ça des émotions dont je vais parler ce soir, mais progressivement. Il y a un temps d'adaptation. De la même manière que je l'ai nommé en tant que temps de retraite pour arriver, pour se laisser le temps de la rencontre, il y a cette possibilité de se rencontrer avec tous les aspects. Donc, en méditation, je crois que c'est vraiment important de prendre conscience des idées préconçues qu'on peut avoir, c'est-à-dire des croyances qui rendent le contact difficile, avant même de se positionner quant à vraiment être dans une mesure à dire, mais qu'est-ce que je vais rencontrer? Il y a le temps de la rencontre, de prendre conscience de la croyance qui dit « je ne vais jamais pouvoir demeurer 2 secondes en présence de cette émotion ». C'est beaucoup trop difficile. Donc ça, ce sont les pensées qu'on a tendance à avoir, mais qu'on ne reconnaît pas, parce qu'on est perdu dans le contenu de ces pensées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du processus. Donc le commentaire, l'évaluation, l'idée qu'on a, c'est pas possible, c'est possible, peut-être, non mais pas aujourd'hui, tiens la prochaine méditation, prochaine retraite, dans 10 ans. Ben, tout ce qu'on peut dire, mais ça fait partie de la rencontre. Donc voilà la première étape. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine coloration déjà au niveau de la conscience. Et qu'à ce moment-là, on est complètement juste de se rendre compte, tiens, quelle est, vraiment avec beaucoup de respect, quelle est ma difficulté? Quelle est ma résistance? De quelle manière est-ce que je suis disponible? Donc, tout ceci, bien sûr, revient à dire, parler de l'attitude dont on parle très souvent, mais parce qu'on est dans un registre quand même un petit peu plus difficile, douloureux, on a tendance à se noyer dedans. C'est ce qui se passe généralement. Soit on est noyé dedans, soit on est vraiment à distance. Donc, on considère certaines émotions, par exemple comme la colère, comme inadéquate. C'est pas bien d'être en colère. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petite. Donc, mon conditionnement, c'est surtout pas ressentir la colère. On la laisse à distance. Et c'est très intéressant parce que moins je ressens la colère, il se peut très bien qu'elle m'agisse. Et du coup, elle m'emporte. Et plutôt que de la vivre et de la reconnaître et vraiment de lui donner un peu de place et de savoir comment l'aborder et être en présence d'elle, eh bien, je ne sais absolument pas me comporter en sa présence parce que j'apprends pas. Et tout à coup, je suis dans une situation de vie et ça devient une catastrophe parce qu'elle m'agit. Donc, vivre au contact et dans un processus de méditation comme celui-ci, c'est immensément enrichissant parce que ça nous apprend à pouvoir être en sa présence et qu'à ce moment-là, peut-être il y a des chances qu'elle ne nous agisse pas en situation réelle, en présence d'autrui. Ça a du sens? Oui, j'imagine. La peur, elle est vécue ou elle est vue comme invalidante. Elle me paralyse. Selon notre conditionnement social ou culturel, il n'y a aucun doute que la peur est quelque chose qui va nous paralyser. Petit à petit, on va pouvoir apprivoiser la peur. Donc pour chaque émotion, en tout cas pour ma part, ça m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un terme. Par exemple, d'apprivoiser ma peur. D'apprendre de ma colère. Donc pour chacun, chacune, ceci peut être judicieux. Donc notre comportement habituel, la réaction immédiate et habituelle, c'est le refoulement d'un côté, on met le couvercle, ou alors l'expulsion. On se laisse agir par ça. Ce sont vraiment les deux modes. On agit pour ne pas sentir. Et au moment même où ces émotions désagréables surgissent, eh bien, il y a souvent un besoin urgent de faire quelque chose à leur sujet pour les évacuer. D'où notre, par moment, et c'est une évidence quand on dit ouh là là, ça m'agite et puis je ne peux pas rester immobile en assise. C'est parce qu'effectivement, il y a là peut-être une présence d'une émotion sous-jacente qu'on ne reconnaît pas et qui fait que ben il y a de l'impatience, il y a de l'agitation, parce que c'est difficile d'être dans cette situation de présence immobile et de refouler. On se rend bien compte que là, on va forcément devoir être un petit peu en rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'agite au niveau de son esprit, de sa conscience. Donc, vouloir les faire s'en aller en les refoulant dans l'inconscient ou en les agissant sont vraiment les deux manières habituelles, on peut dire, compulsives que nous avons. Mode d'évitement habituel. Et c'est complètement normal. Je crois que c'est tellement important d'entendre ça. Tout un chacun va naturellement découvrir ceci. Ça fait à nouveau partie du processus. Et peut-être qu'on a un mode plutôt que l'autre. S'il y a une expression et qu'on ait du tempérament à voir de l'expression, ben c'est évident qu'elles vont être agies. Si on est du tempérament un petit peu plus introverti, on les refoule et on est plutôt à l'intérieur et elles nous paralysent. Ça, ce sont les deux tempéraments qui, naturellement, sont les plus courants. Je suis du deuxième. Pas toujours. Mais on apprend à nouveau, on apprend de notre manière justement d'être en vie quelque part. Donc si on s'y prend d'une manière à pouvoir apprendre tout au long de notre vie, eh bien on va pouvoir petit à petit rencontrer ces émotions plutôt que les éviter. Et de toute évidence, de toute façon inconsciemment, elles continuent de nous obséder, elles continuent de nous perturber. C'est pas que, voilà, si je ne regarde pas dans sa direction, elle va pas être là. C'est ce avec quoi on vit. Il suffit d'une circonstance, c'est exactement ce dont parlent les textes. Elles sont latentes. Elles n'émergent pas, elles n'émergent pas. Oups, il y a une circonstance et hop, une situation de latent, elles deviennent vraiment complètement actives. Donc, elles nous troublent. Donc, une attitude à leur égard avec grand respect. Maintenant, c'est étonnant. Comme l'a dit quelqu'un dans un groupe aujourd'hui, c'est quand même étonnant de se retrouver en phase avec la réalité alors qu'on avait une vue totalement idéalisée de la méditation. Mais je comprends pas, un peu abstraite, on voit les Bouddhas, ils sont tellement sereins, ils ont un sourire. Celui-ci, voilà, complètement paisible, heureux, bien portant, souffrant. Et naturellement, on a cette image. Je veux dire, je crois que c'est très important de se rendre compte. On a une image de totale sérénité. Donc, un idéal. Et ensuite, une image de perfection que nous reportons sur nous-mêmes qui correspond à cet idéal. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur, la sérénité totale. Mais ce n'est en tout cas pas mon cheminement et vraiment ma compréhension est que on ne peut pas être serein si on laisse de côté des aspects de nous-mêmes qui naturellement sont si riches. Donc chasser les émotions ou ne pas les considérer, vraiment aller dans le sens de ce qui est dans l'ombre, c'est-à-dire c'est aller dans l'ombre pour amener l'ombre à la lumière, est beaucoup plus juste et surtout intégrant. Donc, pour ma part, ce que j'ai eu comme objectif, je me suis dit quand même, je médite, c'est pour un objectif, c'est pour un changement, une transformation. J'imagine que pour vous aussi, il y a une transformation qui est souhaitée. Donc, ce n'est pas d'être noyé par les émotions, mais de pouvoir les vivre. Donc, être en présence de ces émotions et ne pas être autant troublé ou submergé en leur présence. Ça, c'est, il me semble, un objectif tout à fait souhaitable et que l'on peut atteindre progressivement. Et c'est exactement ceci que je peux vraiment dévoiler et vous donner toute ma confiance pour dire que oui, c'est possible et il y a une transformation qui se fait tranquillement, mais véritablement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout pas qui est effectué dans le sens de la liberté, on ne peut jamais vous le retirer. C'est vécu. Donc, c'est vraiment tel un trésor. Donc, nous avons des ressources pour travailler avec ces difficultés. Les ressources sont bien sûr la pleine conscience, une qualité de présence qui est toujours, toujours, toujours disponible. La qualité de la conscience elle-même qui vous permet d'y voir clair. Il y a bien sûr la bienveillance, cette dimension tellement importante dans ce registre-ci, parce qu'elle aide à l'ouverture progressivement. La persévérance, la patience est une très grande vertu. Donc toutes ces qualités-là vont nous accompagner. On n'est pas dépourvu de qualités. Il y a aussi ces qualités qui sont là pour nous aider. Donc petit à petit, elles deviennent plus tangibles. On peut réellement les toucher, c'est-à-dire entrer en contact, être pleinement conscient, pas simplement les reconnaître comme concept ou les nommer, mais les vivre. C'est exactement ceci dont a parlé Charles hier soir. Et Pema Chodron dit ceci: des sentiments comme la déception, l'irritation, la colère et la peur, au lieu d'être des mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseignent ce que nous refoulons. Donc, éclairer la conscience qui, par moments, est quelque part colorée, puisque je vais utiliser le même terme, colorée de colère, de peur, de difficulté, de tristesse, pour pouvoir aller à leur rencontre et les reconnaître pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins. Reconnaître pour ce qu'elles sont. Donc je vais juste en nommer quelques-unes parce que je crois que ça donnera un tout petit peu plus de sens pratique. Elles ont toutes une tonalité différente. Elles ont vraiment quelque part une saveur différente. Mais si moi je vous parle de la peur, vous savez de quoi il s'agit. La peur, elle est vécue et elle est ressentie généralement d'une même manière. Donc, c'est la nature de la peur, comme la nature du feu est de brûler, ou la nature de l'eau, ben, elle mouille. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, elles ont toutes une tonalité, une expression, si vous voulez, différente. Maintenant, la tristesse, très souvent, elle a un lien avec le passé. C'est-à-dire que il y a souvent un sentiment de nostalgie. Il peut y avoir de la déception, il peut y avoir un sentiment de perte, il peut y avoir un sentiment de grief. Donc il y a certaines colorations qui sont là par rapport à cette émotion précisément. Et pour chacun, chacune, on va pouvoir commencer à découvrir la saveur de cette émotion, la reconnaître. Ensuite, il y a la pensée qui émerge par rapport à cette émotion, dans le sens que il y a naturellement l'émotion, elle est dans la conscience, mais il y a une croyance, et pour chacun, la croyance est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Si on commence à être en présence de cette croyance, on va pouvoir découvrir quelque chose. C'est qu'est-ce que je me dis au sujet de cette émotion? Alors, ça, c'est tout à fait personnel, ce que je partage. J'avais pris des petites notes quand j'étais en retraite. Et ma croyance par rapport à la tristesse, c'est si je m'ouvre à cette tristesse, je vais me noyer dedans. Donc, sous-jacent, il y a la peur de se noyer dedans. Donc, on voit très bien qu'elles ne sont pas isolées les unes des autres. Très souvent, il y a un niveau, il peut y avoir de la colère, puis en dessous, très très souvent, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment de peur ou de frayeur. D'accord? Donc, si je m'ouvre à cette tristesse, je vais me noyer dedans. Donc, non, je reste à distance. Et en restant à distance, je prends compte de ce qui émerge. Si je suis à distance, ben, je ne suis pas en contact. Mais ça n'a aucune importance puisque je sais que je suis à distance. Donc, je reconnais le fait d'être à distance. Et à distance, où est-ce que je peux être? Où est-ce que je suis? Ben, soit dans une rêverie, dans une pensée X, future, un rêve que je me crée, ou alors, il est possible que je m'endorme. Et très souvent, la somnolence, dans ces cas-là, est une forme de distance. C'est très, très souvent le cas. Donc, voilà, c'est ça qui se passe. Mais, en même temps, le processus continue. C'est pas qu'on a tout perdu. On est vraiment dans un positionnement où on a pris en compte quelque chose. C'est trop difficile. On prend une petite pause. On a vraiment une manière de se... partir sur le tapis et puis on va réémerger. Avec un petit peu plus d'astuces, d'aide, je me dis, tiens, ok, c'est trop difficile, j'ai peur, je prends appui sur le point d'ancrage. C'est exactement pour ceci qu'est fait le point d'ancrage, un lieu de rencontre qui me ressource. Donc à ce moment-là, il y a consciemment, la présence va m'aider à me resituer, me rééquilibrer pour demeurer dans une attitude de disponibilité. Il n'empêche qu'il n'y a absolument aucun problème à découvrir, peut-être un moment plus tard, une disponibilité. La colère. On est assis souvent avec des vieilles rancunes. Qui n'en a pas? Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc la colère, elle a beaucoup, beaucoup de, de facettes. Et c'est évident qu'il y a à ce moment-là la pensée, la croyance, et à nouveau, je vais donner une de mes phrases. Donc vraiment trouver la vôtre, ce sera beaucoup plus aidant pour vous. Mais pour ma part, avec la colère, c'est souvent, c'est, j'ai bien raison d'être en colère, car c'est justifié. Et c'est une évidence que la colère, souvent, elle est justifiée. D'accord ? Donc, on blâme la situation, on blâme l'autre. Maintenant, chaque fois qu'on est perdu dans une pensée au sujet de ce qui me met en colère, eh bien, on alimente. On met du feu au feu. On alimente la colère. On alimente cette émotion. D'accord ? Donc, dans la mesure du possible, ne vous perdez pas trop dans ces pensées. En tout cas, pour ma part, je sais que ce n'est absolument pas le moyen. Pour la colère, dans la mesure du possible, si on a envie de se rencontrer, c'est, pour ma part, une imprégnation physique qui est tellement claire, mais tellement claire. Parce que, voilà, même d'en parler, ouais. Ça brûle. Mais c'est de l'énergie, c'est de la chaleur. C'est tellement extraordinaire. Hein? La conscience est ce qui émerge au niveau de, du corps. C'est tellement relié. Alors voilà, donc là je reste, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas forcément agréable de vivre ça devant vous, mais c'est la réalité. Voilà, c'est exactement ça, in vivo. Et puis, ça monte direct. Et il y a une possibilité de dire, ok, je fuis. Mais je peux aussi me laisser traverser par ça. C'est complètement clair. Et c'est intéressant parce que plus il y a du vécu de ceci, plus ça se manifeste et ça passe, ça traverse, comme un éclair qui traverse dans le ciel. Puis voilà, ça s'en va. Donc là, de demeurer dans le contact. Donc la phrase est là, quelque part, une dimension de dire, voilà, j'ai raison, on justifie la colère, on la porte par rapport à la situation. Et très souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on veut résoudre la problématique qu'on a dans cette situation. La méditation va vous dire, posez la problématique. Laissez-la de côté un tout petit peu et allez à la rencontre de ce qui vous habite ici et maintenant. D'accord ? Donc la situation présente, elle est ce qu'elle est en cet instant, c'est-à-dire chaleur, crispation, bouffée, voilà, chaud, et c'est tout, et on vit ceci. Et quand on vit ceci, on va pouvoir tout à coup découvrir que c'est ok de vivre cette expression de colère, que il n'y a pas besoin de s'en aller. Donc, le scénario « j'ai raison Elle a tort. Eh bien, on s'y arrête pas trop. Bien sûr qu'il y a de ça. Et puis, on le revisitera peut-être à un moment donné. Mais on ne se fait pas l'économie de vivre cette situation qui a une richesse immense. Parce qu'on se dit, tiens, on peut effectivement la laisser nous traverser, la vivre. Et ensuite, la conscience va simplement me mettre en présence de ce qui est. Donc la douleur, c'est la résistance. La souffrance conditionnée, c'est de résister ce que je viens d'exprimer. Où on ne se laisse pas aller à ce vécu-là. Et si on ne se laisse pas aller au vécu de ressentir ce que ça peut vouloir dire, eh bien, il y a une phrase très célèbre du Bouddha qui dit: avec l'intention de jeter sur l'autre un morceau de charbon ardent, c'est nous qui nous brûlons. Et donc, on se consume de cette manière. Alors que là, il y a une énergie vitale extraordinaire qui peut se transformer, et c'est de l'énergie de vie. On apprend, je veux dire vraiment. Et cette énergie, elle est énergie tout d'abord. Après, elle peut se traduire en colère ou en irritation. Mais cette énergie vitale, elle a une force extraordinaire de créativité. Donc elle peut déjà aussi nous donner une manifestation, une expression tout autre. Donc, nul besoin de réprimer, nul besoin de juger. En dernier lieu, la peur. Donc, j'en ai pris trois comme ça que je connais bien. Il y en a bien sûr bien d'autres. La peur a été mon plus grand maître, figurez-vous. Que vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé le chemin. Vraiment. Tellement j'ai été dans des situations de grande panique toute jeune. Et donc, elle a été vraiment extrêmement importante. J'ai tellement appris avec la peur. Source d'éveil pour moi, compagnon de route depuis si longtemps. Alors, c'est évident que un cheminement de nombreuses années. Tellement longtemps, j'ai tout fait pour éviter de ressentir la peur. Donc, je me suis tapé la tête contre les murs, j'ai passé des heures sur le coussin, rêvassé. Voilà ce qu'on fait, je veux dire, pour résister à l'expression de quelque chose qui a besoin d'émerger, mais que j'étais pas à même d'accueillir, tout simplement. Je veux dire, voilà, en toute humilité. Et c'est uniquement quand j'ai vraiment commencé à faire des longues retraites que je me suis dit, ok, il n'y a plus de temps, tranquille. Pas besoin de prendre ceci par la main, il y a du temps. Voilà. Donc, toute une phase, je crois, où vraiment on est là profondément dans la résistance. Et une des premières résistances, c'est justement de rester dans le concept. C'est un faux refuge, mais c'est un refuge. Et pour moi, vraiment, je me réalisais combien j'étais dans le refuge du mental. Voilà. Je veux dire, si on reste dans le mental, eh ben voilà, c'est évident que on va pas aller dans les profondeurs. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir se rendre compte de ceci, puis de dire, ouais, waouh, mais c'est ok. Ben, je prends vraiment compte de ceci, et puis c'est là que j'habite, et c'est là que je me sens capable d'être en existence. Et voilà, donc. Forcément que dans ce mental, il y avait par moments des petites bribes de peur comme un fantôme qui émerge et puis whoop, il repartait. C'est extraordinaire. Après, je me suis dit, ok, je suis prête. Prête pour la rencontre, comme le Bouddha avec Mara. je te reconnais la peur. Et au moment où je me disais, j'étais prête, elle s'en allait. Parce qu'il y avait une résistance sous une autre forme. Donc, une autre forme de stratégie. Pas le mental, mais une autre forme, une forme quelque part d'échappatoire. Donc, j'ai commencé à me dire, c'est tellement important que tu prennes conscience de quelle est ta pensée au sujet de la peur. Quelle est la croyance? Donc, exactement ceci. Quel est le scénario que tu te racontes au sujet de cette émotion précisément? En restant très proche, dans la mesure du possible, de l'instant présent, car la peur, c'est toujours une anticipation par rapport à ce qui va arriver. Au contraire de la tristesse, c'est au futur. Et pour moi, le scénario, c'est le moment suivant, je ne vais pas pouvoir supporter. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cela? Quelque chose de désastreux va arriver. Et bien sûr qu'il y a un conditionnement de mon histoire de vie, de petite fille, qui tout à coup se rejoue là. Donc, il n'y a aucun doute qu'il y a toujours un mouvement qui a de l'ordre du conditionnement du passé et qui se rejoue au présent et qui continue de se rejouer tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, intégré. Et c'est ça qui se passe. Il y a un moment donné où on arrive à intégrer. Et ça prend tellement de temps, mais en même temps, c'est génial quand on intègre, parce qu'il y a un vent de liberté qui est vraiment là. Et ça ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus être comme avant. Donc, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Donc, dans mon imagination, en gros, ça va être dramatique si je visite la peur. Et mon maître du moment, j'étais en plus en Birmanie, il me disait, reste dans le présent. Reste dans le présent. Ici, présentement, est-ce qu'il y a de quoi avoir peur? Je disais, non, dans la réalité du présent, ici, maintenant, dans l'instant, vraiment proche, en contact, non. Il m'a dit, et une méditation, une qualité de présence, de conscience qui fait que tu restes dans le présent. Waouh! Je peux vous dire que c'était assez extraordinaire parce que bien sûr que ça m'a mis quelque part dans un rapport un tout petit peu plus ouvert, mais progressivement. Donc, j'ai pu constater les sensations physiques qui naturellement émergeait à partir de ce sentiment de peur, de cette émotion, le serrement de la poitrine, la moiteur dans les mains, le manque de stabilité physique, parce que c'est ça qui se passe tout à coup, on sent un flou quand il y a de la peur. Et puis, très progressivement, je me disais, il n'y a pas besoin de fuir, il n'y a pas besoin de fuir. Et c'est pas évident d'avoir ce courage. Et puis par moments, c'était absolument impossible. Alors c'était 3 minutes. 3 minutes dans une journée. Mais ça change. Vous voyez, la condition, comme elle change, tout à coup, il y avait une ouverture qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. C'est extraordinaire. Donc, petit à petit, la présence m'a donné confiance. À une autre retraite, donc là voilà, c'était ça a été, c'était bon, là j'avais décidé que ça suffisait avec la peur, et c'était très bien comme ça. Donc retour, point d'ancrage, sensation physique, voilà. Et je crois que c'est très important de se dire, ok, je respecte, c'est vraiment important de pouvoir cheminer plutôt que de lutter et d'être dans un désarroi absolu parce qu'on n'y arrive pas et puis qu'on est en prise avec la difficulté du présent. Le reste de la retraite, j'ai pu jouir des moments d'agrément, d'être vraiment bien, d'être tranquille, et puis ceci en conscience. ça a continué de nourrir quelque part le processus dans le bon sens. Donc d'aller aux qualités positives, d'appeler et de vraiment continuer de cultiver la bienveillance. Cultiver la bienveillance, cultiver l'ouverture, l'acceptation, a permis à un autre moment de revisiter cette émotion. Vous comprenez ça, que c'est vraiment un processus et qu'il y a quelque part là quelque chose de tout à fait organique et qui n'est pas imposé, mais qui est empli de respect. Respect pour votre personne, pour vous-même, pour ce qui est, pour la vie. Donc il y a bien des fois, il y aura une résistance et il y a un non. Non. Je me souviens, la prochaine fois après ça, Biomanie, j'étais à l'AMS où j'ai fait beaucoup, beaucoup de pratiques, donc le centre à Boston, la Belle. Et puis quand on prend l'escalier pour monter, pour aller aux chambres d'entretien, je me souviendrai toujours, il y a un magnifique peinture japonaise et puis c'est écrit permettre sans exception. Et puis forcément, on monte cet escalier comme on l'est. On voit, on ne peut pas ne pas voir, permettre sans exception. Puis j'étais là et je me suis dit, non. Il y avait une telle résistance. Et puis voilà, vraiment là, j'avais l'impression, mais j'ai 2 ans. Et c'est vraiment ça qui se passe. Quelque part, quand on lâche un petit peu ben, le mental et puis ses rêves et autres, et ben, il se trouve que il y a des petits moments où tout à coup, ben, ouais, voilà, non, le non, il est monumental. Mais il n'empêche que ce non, il est juste. Il nous dit respecte. Et donc, on respecte la résistance. La résistance fait partie du chemin. Donc, le pratiquant contemple, si l'esprit est affecté par la colère, il sait, l'esprit est affecté par la colère. Ceci est le satipatthana. Donc, c'est aussi simple que ça. Si on arrive à, quelque part, simplement reconnaître déjà, tiens, c'est ça, et puis ensuite vivre l'expérience avec habileté, doigté, respect, en comprenant toutes les formes de résistance, en appelant à la joie, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à découvrir que ça se dissout, que la solidité qu'a une émotion particulière n'est rien d'autre que le figement, la crispation, la création de la tension que je crée autour ou à propos de ceci. Que ce soit une croyance, je peux rester vraiment très crispée au niveau d'une croyance, ou que ce soit une crispation dans le sens de l'ordre physique. Donc, c'est plus simple à dire, mais j'espère que j'ai vraiment traduit le cheminement et que la mise en application prend du temps. C'est un processus, d'accord ? Donc, 2 choses doivent changer. Premier changement dans l'attitude, bien vouloir entrer en contact, se rendre compte de l'attitude, que ce n'est pas pour l'éliminer, l'expulser ou la manifester, mais simplement en rencontre avec respect, capacité d'intégration. Ce qui se passe à ce moment-là, elles perdent de leur pouvoir. Elles perdent vraiment de leur pouvoir. Donc le deuxième changement, c'est qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que la nature de l'émotion, sa caractéristique, elle est universelle. Ce n'est pas personnel. Cette émotion n'est pas du tout quelque chose qui me définit. Et ça, c'est exactement là que c'est, dans cet instant, qu'il y a une ouverture, une disponibilité par rapport à la saisie. Qu'est-ce qui fait qu'elle est saisie ? C'est le récit que j'ajoute, l'histoire que je me raconte à son sujet, la crispation dans la relation à l'émotion qui crée la saisie. Donc, comment faire ce passage ? soutenir la qualité de la pleine conscience. Comme je l'ai décrit avec la peur, reste en présence, reste en présence. Quand on soutient la qualité de la présence avec soin, délicatesse, énormément de respect, de bienveillance, on se rend compte de la texture, de la saveur de cette émotion au niveau de sa caractéristique. C'est simplement la nature et elle émerge et elle disparaîtra comme tout type d'expérience. Comme tout type d'expérience. Il n'y a aucune raison que celle-ci, elle soit inhérente puisqu'elle n'est pas inhérente à la conscience. Vous comprenez ceci? Donc, comme la nature du feu a de brûler ou l'eau de mouiller, la colère a ses caractéristiques, la peur a ses caractéristiques. Et c'est universel. Elles sont impersonnelles. Donc tout émerge et disparaît. Tout émerge et disparaît. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont là toujours? On est au niveau du concept. Et le concept est stable. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que elle nous visite et qu'elle reste pour toujours parce qu'on est au niveau du concept. Donc, elles ne disent absolument rien de nous. Elles n'ont aucun pouvoir de nous définir. Quelle merveille! Et j'aime bien le texte de Sumedho qui dit « Lorsque vous êtes en proie... » Donc, Ajahn Sumedho, l'ex-abbé de la tradition de la forêt de Thaïlande, qui a pris sa retraite, et qui dit ceci. Lorsque vous êtes en proie à l'exaspération, plutôt que de vous dire « ça y est, je recommence à m'emporter », vous pouvez penser « ceci est la colère ». Il en va de même avec la peur. Si vous la voyez en termes personnels, comme la peur dont souffre ma mère ou bien mon père ou encore la mienne, tout devient alors un imbrio confus de différents personnages, tantôt reliés entre eux et tantôt séparés. Il devient alors très difficile d'avoir une compréhension réelle. Donc ça, c'est le scénario, c'est l'histoire que je me raconte. Elle est importante, mais ne pas s'arrêter là. Au niveau de la nature, ceci est la peur. Ceci est de la peur, c'est seulement cela. Il dit, la colère que j'ai éprouvée n'est pas différente de la colère vécue par les autres. Si nous voyons cela, nous sommes à ce moment-là en mesure d'éprouver cette émotion comme une simple émotion. Et non seulement ça, mais nous avons la capacité d'éprouver de la compassion pour cette émotion passagère. Donc la compassion, la meilleure manière de se relier. Car la compassion, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a, c'est une ouverture à la souffrance. C'est une ouverture, c'est la dimension de dire c'est ok, il y a de la souffrance ici. Il n'y a pas à se rebeller ou à dire se culpabiliser ou se blâmer. C'est juste la souffrance. La douleur est la douleur, il dit. Le froid est le froid, la colère est la colère. Ce n'est pas la mienne. Une façon de voir qui renforce l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est exactement l'inverse qu'il faut choisir. Ceci est simplement de la douleur. À ce moment-là, nous allons pouvoir vivre les choses autrement. Donc, tout le travail, toute la démarche qui est entreprise ici, c'est vraiment de nous rendre compte de la réalité. Aucune émotion n'est inadéquate. Aucune. Nous essayons de les laisser exister telles qu'elles se présentent. Sans réactivité dans la mesure du possible, sans complications supplémentaires. Causées par quoi ? Par l'aversion par rapport à ce qu'on ressent, qui est douloureux, sans attachement, sans assistance. Et quand il y en a, on prend compte les résistances. Avec le temps, vraiment surgit une appréciation tellement grande pour le chemin lui-même. Pour vraiment la découverte de ceci, car on s'en sent libéré. Donc c'est pas peu de choses, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc voilà l'invitation. J'espère que ça a éclairé quelques points. Plus nous devenons familiers avec notre réactivité, plus on va la reconnaître, plus aussi on va avoir la mesure de la ressentir, et plus elle devient quelque chose qu'il est possible de rencontrer, la réactivité, la résistance. Donc la liberté ne veut pas du tout dire de ne plus jamais en avoir. Les émotions, c'est tellement riche, mais de ne plus être contraint par elles, de ne plus être sous leur emprise, dans le sens qu'elles nous figent et qu'elles nous contraignent. Donc, en quelques secondes, on passe d'un rapport réactif à un rapport de réceptivité. Avec toutes ces émotions difficiles, l'attitude est la même. D'accord ? C'est la relation qu'on établit avec qui va nous aider à pouvoir vraiment découvrir comment on peut être en présence. Et il s'agit de ça, vraiment de plus en plus, être en présence, demeurer en présence. Il n'y a rien à faire. C'est laisser traverser, laisser les choses exister pour ce qu'elles sont. C'est la meilleure attitude. Et ça prend du temps. Donc, dans les moments les plus héroïques, comme moi avec la peur, ils sont vraiment vus comme des défis, il n'y a aucun doute, auxquels on fait face courageusement. L'héroïque. En sagesse. Et dans nos moments les plus tendres, parce que je crois que c'est vraiment aussi important, ces moments de tendresse avec soi-même, on les voit comme des cadeaux, des opportunités. Ce sont des moments de grâce. Très grande grâce. Souvenez-vous qu'il est important de toujours retrouver un équilibre en chemin. Lorsqu'il y a un chemin caillouteux ou qu'il est difficile, on prend appui autant qu'il est nécessaire dans une zone qui va vous aider à vous recentrer. Ce qui implique pour beaucoup de personnes le point d'ancrage, ou ce qu'on a nommé ouvrir le champ de l'expérience, c'est-à-dire élargir le champ de la présence, prendre l'audition, ou de trouver un peu de stabilité au niveau du corps, de l'assise. Donc il y a plein de moyens, et là, ben, quand ça se passe, généralement c'est ce qu'on découvre quand on est en phase à pouvoir être avec des enseignants, d'expliquer, tiens, comment est-ce que je me positionne. Donc, vraiment, on s'alimente du mieux qu'on peut pour petit à petit progresser dans le sens de l'ouverture plutôt, et de la disponibilité, si on veut, plutôt que de rester figé. Si vraiment il y a de la peur, comme j'ai pu vivre, on ouvre les yeux, on ouvre le champ pour être dans la réalité, parce que c'est évident que ça aide par moment. Et on s'équilibre. Donc, c'est pas waouh, j'ai plus de repères. Je garde constamment les repères. Tout en allant peut-être un tout petit peu à l'inconnu, mais de nouveau, l'inconnu, c'est combien de personnes m'ont dit encore aujourd'hui, je crois. Ah, le vide. Mais c'est quoi le vide? C'est une représentation. Et si c'était plein? C'est extraordinaire de dire, voilà, si je lâche la peur, qu'est-ce que je vais rencontrer? L'inconnu, c'est vide. Mais c'est extraordinaire de dire, ben, peut-être que c'est la plénitude que je rencontre si je lâche cette peur. La représentation, pour beaucoup de gens, c'est voilà, le trou noir, le vide. C'est extraordinaire. Donc là, il y a vraiment de quoi découvrir quelque chose de l'ordre d'une croyance. Donc, s'alimenter de méta, des phrases comme, puis-je être en sécurité, vivre un peu plus tranquillement. Tout ceci est aidant. Méta est un antidote. C'est l'antidote à la peur et la colère. Juste pour vous dire que donc c'est tellement important de les cultiver. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, pour ma part, de continuer à aller dans le sens de me libérer de cette émotion qui était vraiment assez importante. Une autre possibilité au niveau ressourcement, c'est d'aller à la nature. Donc, il y a vraiment des soutiens Et c'est une évidence que quand on va faire dans ces moments-là une balade, eh bien, elle nous ressource et elle fait partie du chemin, elle fait partie du processus. On en a besoin. Ou boire une tasse de thé tranquillement pour. Voilà, on prend appui. Donc, on a tout au long du chemin, quand on est dans ces registres plus douloureux, difficiles, de vraiment avoir à cœur de nourrir le positif, ce qui nous fait du bien, pour pouvoir alléger et aussi retrouver un petit peu des forces. Donc, c'est tous les moyens habiles, si vous voulez. Et petit à petit, ensuite, on est en plus en conscience et on peut être plutôt que résigné en ouverture de la réalité. Et la réalité, c'est simplement la réalité. On cesse de se faire des scénarios d'horreur, d'épouvante ou dramatique. Voilà, je vais donc finir avec un petit texte de Sharon Salzberg, très court. Se réjouir de notre capacité à pouvoir faire des choix, cultiver ce qui est bon, lâcher ce qui nous nuit et est cause de souffrance, nous donnera la confiance et la joie de continuer à pratiquer, de faire les choses qui sont difficiles et pas courantes pour nous. Aucun de nous ne peut faire les choses parfaitement. C'est une pratique. Nous pratiquons la méditation avec les autres et avec nous-mêmes, encore et encore. Et ces pouvoirs grandissent jusqu'au point qu'elles coulent presque comme une cascade. C'est ce que nous devenons, c'est ainsi que nous serons à même de ressentir et d'approfondir un bonheur vrai et authentique. Voilà les quelques mots de partage pour ce soir au sujet des émotions. Je vous remercie de votre écoute.